On peut passer à la chronique de H.
Let's go! Ça va être l'épisode des chroniques un petit peu salé.
Oh.
Je viens vous parler ce soir parce qu'il y a un problème d'éthique, je crois, dans le journalisme jeux vidéo.
Oh non, c'est impossible, oh je peux pas te laisser dire ça, H.
Alors là.
Je peux pas te laisser traiter les journalistes de journal
en poker. En vrai, non, je vais jamais faire ça.
Je voulais
critiquer des trucs dans le journalisme jeux vidéo, laissez-moi parler. Et c'est toujours compliqué d'adresser des critiques au journalisme. Parce que cette phrase que vous avez entendue sur les problèmes éthiques, peut-être que vous la connaissez pas. Mais il y en a beaucoup chez qui elle va sonner des petites fenêtres. Ouais. Parce que c'était le cheval de Troie du Gamergate. Et dès qu'on commençait à... Enfin voilà, ils amenaient leur petit cheval de Troie et puis on commençait à prêter l'oreille à ce qu'ils avaient dit sur le problème de tuque dans le journalisme.
Pourquoi ils n'avaient pas forcément tort hein.
Et ils achètent leur misogynie et leur racisme, et du coup ils avaient tort. Grosse conne. Alors ça y est, Ash c'est une star, elle a sa photo dans les magazines, elle fait des interventions à P8, et il paraît, il y a des rumeurs, semblerait-il, qu'elle va cracher sur la main qui la nourrit, qu'elle va dire le J-word. Or non, aucune de ces racailles ne mérite le titre de journalope. En vrai, ça leur a trop donné la confiance de se faire traiter de journalope. Ceux qui les attaquent, c'est des fachos, eux ils sont du côté des opprimés, des queers, des lopes et tout ça. Ils sont stigmatisés de la même façon, ils partagent des trucs avec nous et... Bah non, les lopes elles vous détestent. Du coup, le mois dernier...
Du coup, nouveau mot.
On verra, on verra. Erwan Cario de Libération. Donc Erwan Cario, journaliste spé jeux vidéo qui est arrivé à Libération et qui tient aussi le podcast Silence en Joue et qui est très visible comme figure de gauche sur le jeu vidéo, qui a aussi le podcast oui. Gâchette Gauche qui réunit le journalisme de gauche du jeu vidéo. Il annonçait qu'il lançait un podcast sur les coulisses du jeu vidéo avec deux chroniqueurs, Jeanne Rousseau, encore patronne de Spiders, du studio Spiders, donc un gros studio francophone qui a bossé notamment sur... J'ai oublié le nom... quelqu'un l'aura peut-être dans le chat ou quoi.
Oui, ouais, le jeu français bizarre.
Ouais, c'est ça. Steampunk Révolution. Enfin, Steampunk pendant la Révolution française.
Ah oui, je l'ai vu au musée de Lille.
Rising Steel.
Il y a encore c'est quelques mois. Et désormais, oui. Juste directrice créative. Alors, elle a passé sa. Elle a laissé sa place à Anne de Voissou, patronne du SNJV. Et j'avais fait un thread quand elle était passée patronne du SNJV, parce que Anne de Voissou, je la connais, et c'est clairement pas la meuf la plus féministe du
jeu. Oh, la passation de Girlboss à Girlboss, là.
Donc voilà, il y avait Jeanne Rousseau, qui était la première chroniqueuse permanente de cette émission, et le second, c'était Laurent Victorino, patron de Monkey Moon. Patron, merci patron. Alors j'ai fait un tweet un peu salé, putain je suis con, j'ai pas pris de photo du tweet. Alors j'ai fait un tweet un peu salé. Parce que voilà, je vous disais rapidement que c'était deux patrons. Jeanne Rousseau, elle était, ou Jeanne Rousseau, je voulais pas tout répéter ici, mais Jeanne Rousseau avait été épinglée par le STJV l'année dernière. Jeanne Rousseau dirigeait sa prod depuis son appart à Venise. Tranquille. Et Laurent Victorino, c'est un mec qui se vante. Que tout son studio est en freelance et que du coup il crée pour chaque. En fait, le studio c'est uniquement lui en théorie et en fait il crée lui-même sa petite équipe parfaitement ciselée pour besoin de chacun de ses projets qu'il lance avec son. Il est pas du tout patron. Par contre, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sa team elle est en freelance et que elle est entièrement en freelance et que à chaque fin de prod elle est entièrement dégagée. Le freelance, c'est ultra précarisant, en particulier pour des jeunes travailleuses du jeu vidéo, genre ceux qui vont se retrouver à bosser sur ce genre de projet dans l'indé. Donc voilà, j'ai gueulé sur Twitter, et oh là là, ça a pas plu dans le petit milieu journal bobo parisien. Ça attaque sur les gens, sur le perso, c'est pas très propre, les infos sont pas vérifiables. Mais en fait, genre, c'est vous qui pensez que ce genre d'infos, c'est du perso. Moi, quand je bossais dans le jeu vidéo, mon patron, il arrivait tous les matins au volant d'une de ses trois voitures, je crois que c'est dans l'en haut, trois voitures de luxe. Tandis que la co-directrice, une fois, elle a voulu m'aider à trouver un logement, et en fait, elle me proposait des trucs dont le loyer mensuel, c'était les deux tiers du salaire qu'elle me versait. On le fait pas pour les attaquer sur leur vie perso, en fait. sur la vie perso en fait. On le fait parce que c'est une déconnexion qu'on sent tous les jours dans le studio et qui, genre, qui mène, qui structure ce qui se passe dans le studio. C'est une déconnexion sociale, c'est une déconnexion économique, c'est une déconnexion totale parce qu'il y a une relation de pouvoir. Et c'est là, précisément, en plus, que se forment les Boys Club. Ce mois-ci, on apprenait avec grande surprise que chez Ubisoft San Francisco, qui avait pas encore été, qui avait encore été un peu épargné par les enquêtes, qui bossent sur X Défaillante, régnait une ambiance masculiniste, sexiste, de crunch jusqu'à pas d'heure, etc. Les boss du studio avaient formé un petit boys club autour d'eux, qui faisait des plans mirobolants pour X Défaillante, qui s'imaginaient concurrencer Warzone, bref, c'était les cool kids qui se foutaient de la gueule d'absolument tout le reste dans le studio. Et pendant ce temps, alors il y a eu des trucs assez violents aussi, il y a eu une meuf qui a bossé ensuite chez Psychonauts qui expliquait qu'il y avait des fois où elle entrait dans les salles de réu, il y avait juste le N-word écrit en gros sur un tableau.
Ambiance
Sexisme H24, etc. C'est les mecs qui bossaient sur les jeux de South Park avant.
Ah ok, c'est
surprenant. Ouais, ça explique des trucs.
Mais je crois pas, c'est satirique, South Park.
Pendant ce temps, il y a des salariés du studio qui tiraient la sonnette d'alarme parce que bah, certaines parties essentielles du jeu dont on parle, là, ils étaient défaillantes. Le netcode, notamment, avait globalement 10 ans de retard. Et quand elles en parlaient, et bah, le Boys Club, il leur riait au nez parce que c'est pas cool de parler, de dire que ça va pas, non, on fait des plans sur la comète. Résultat, et bah, le netcode, il était pourri, ça a foutu le jeu dans la merde, il a bientôt 2 ans de retard, et ça c'est sans compter sur les conditions de travail déplorables, le crunch, les heures sup en trop, etc. Et si le Boys Club d'Ubi San Francisco, il s'illustre par sa violence, son racisme, sa misogynie assez ouverte, et ben le schéma en fond, il n'est pas si exceptionnel. Un petit groupe dirigeant qui a tout le pouvoir dans l'entreprise, qui en profite pour créer son petit cercle, parce que c'est cool de faire voilà, des plans sur la comète, pour le futur du jeu vidéo. Pas d'écouter ce que c'est vraiment que d'aligner des lignes et des polygones. Il est surtout en fait, bah voilà, complètement déconnecté des conditions de travail réelles, des travailleurs, de ce qui se passe, de comment il se fait son putain de jeu, et ça c'est un truc qu'on voit encore et encore et encore et encore. Et c'est ça qui conduit tant de projets dans le mur. Ça a aussi des conséquences sur la façon dont l'info elle sort. C'est leurs histoires qu'on entend tout le temps, c'est eux qui peuvent sortir et raconter la grande histoire du jeu vidéo, tandis que les travailleurs lambda viennent juste présenter de façon bien carrée leur aire d'expertise, parce que les commentaires sur le reste, parce qu'ils peuvent pas se permettre de faire des commentaires sur le reste, de dire ce qu'ils pensent, parce qu'ils vont juste se faire dégager ou détester, et c'est pas forcément mieux. Il y avait un très bon, et justement bah, c'est beaucoup ce que reproduit la nouvelle émission d'Erwan Cario. Il y a un très bon thread de Socket's Power que j'ai pas mis parce que j'ai préparé le PPT trop vite, je suis vraiment désolé, qui a écouté l'émission, qui est un syndicaliste du STJV et qui râle sur ça et qui décortique ça. Et puis c'est pour ça aussi qu'on parle de leurs lambeaux et de leurs appartes à Venise, c'est parce que ces infos perso, pour nous, elles ont un vrai sens politique. C'est pour ça aussi que les syndicats, ils ont des réclamations, ils réclament une démocratie au travail. C'est pour ça qu'on réclame que tous les moyens de production et le contrôle des moyens de la production, ils reviennent aux travailleurs, ils reviennent à celles bah, qui savent comment ça marche et qui sont pas, juste des managers qui passent leur journée à faire des plans sur la comète. Seulement quand on essaye de raconter ça, bah, on se prend des portes. De temps en temps, il y a une histoire grave qui sort dans l'indé, on voit que là aussi, il y a des mecs violemment abusifs, et tout le monde pousse des cris d'horreur, mais le reste du temps, quand on essaye de pointer que c'est des mécanismes qu'on retrouve partout, que la presse laisse parfois un petit peu, enfin voilà, participe parfois à encenser un peu, on nous écoute pas du tout. C'est un truc qu'on a déjà vécu plusieurs fois, c'est un truc qu'on a revu là, il y a plusieurs personnes qui ont surenchéri après mon mini shitstorm, notamment sur le Discord Origami, et je les cite là pour le coup parce que là la réponse a été plus claire que d'habitude, on leur a répondu que Origami n'avait pas à être l'antenne des syndicats.
Ah bah let's go. Par contre c'est le dépassement, c'est bon du coup.
Oui là, ça va.
Ouais.
Je ne dirai rien. Vous pouvez aller voir le channel de création de jeu, aller chercher qui traîne dessus. D'expérience syndicale, c'est pour ça que c'est plus cool de parler à la presse généraliste. sincèrement, Les Échos, L'Humanité, etc., que à des journalistes spé, les journalistes spécialisés jeux vidéo. Parce que la presse généraliste, souvent, bah, ils ont un cadre pour le traitement de l'info. Ils savent qu'elle est prise dans une relation de pouvoir. Et alors, parfois, le cadre, c'est vraiment de la merde. Hein. Tu parles au Figaro, leur cadre, c'est les patrons, il faut les écouter, tu vois. Mais au moins, ils savent pourquoi est-ce qu'on se bat un peu là-dessus. Et voilà, c'est beaucoup plus simple d'en discuter avec eux, de lancer ce genre de discussion. Parce que ils savent que c'est un sujet de discussion, qu'il faut toujours comprendre les évolutions de ça, que c'est un sujet de débat. Et ils vont pas tout de suite se cacher derrière leur monter sur leurs grands chevaux de journalisme, de nom, mais on n'est pas là en antenne.
Du coup, ce que tu veux dire, c'est que les journalistes SP, ils ont choisi les patrons aux travailleurs et aux devs, quoi. Enfin, dans le sens général de dev.
Ça dépend beaucoup. Les journalistes SP, ils font un peu avec leurs connaissances, leurs intuitions, tu vois, ils connaissent le milieu, tu vois. Parce que justement, ouais, c'est simple de pas croire David Cage, par exemple, parce que David Cage, il est has-been, il a été relou sur plein de trucs, et bon, maintenant, c'est cool de le détester, tout le monde le déteste un peu, et là, on fait presque le taf, on écoute presque trop les employés, on leur fait un peu confiance surtout, etc., quand ça sort.
Pour revenir sur Origami, genre, typiquement, là, ça dit, on n'est pas dans une syndicale, par contre, ça l'est quand c'est facile de l'être. C'est-à-dire, quand c'est les trucs qui sont aux US, ça parlait de Blizzard, Activision et compagnie, etc. Là, c'est facile de couvrir d'en parler. En mode, c'est une petite news mondaine à traiter, en mode, ah oui, il se passe ça à l'autre bout du monde. Quand c'est des grosses boîtes françaises avec des, pour le coup, genre, un long bagage historique derrière, comme du Ubisoft ou du Quantic Dream, c'est facile aussi de le taper. Par contre, d'autres boîtes, ça devient, rapidement, ça perd le réseau, quoi. Et ça va juste traiter la news du nouveau jeu, etc., quoi.
Je pense qu'il y a aussi une différence au niveau de la proximité, c'est ce que dans deux secondes sur pourquoi. Enfin, je pense que c'est toujours ça, c'est genre, on aime bien les syndicats dans l'absolu, mais quand on entend comment les syndicalistes en parlent, eh ben on se dit, ah, mais ils détestent les patrons, ils les attaquent sur des trucs perso, etc. Alors que, bah ouais, il faut entendre un petit lien un peu derrière ça. Du coup, j'en étais où? Bah voilà, quand par contre David Cage, c'est simple, par contre, de pas l'écouter. Par contre, quand ça touche des studios un peu plus sympathiques, un peu plus dans les bonnes grâces, bah là d'un coup il y a deux points de vue, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Même quand il y a quand même des indices qui pourraient me permettre d'avoir une analyse un peu plus deep. Vous comprenez, tout ça, c'est connaître le milieu, c'est l'intuition, c'est le plan. Et en fait, en plus, oui, les généralistes, c'est ce dont on parlait, ils ont le langage des syndicats. Ils savent pourquoi on râle sur la richesse des patrons et ils ne nous répondent pas quelle est la source. Concrètement, un journaliste lambda des Échos, et je parle bien des Échos, il a plus l'habitude de parler aux syndicats que n'importe quel journaliste jeux vidéo qui s'extasie un peu sur la syndicalisation chez Blizzard, chez Rockstar, chez Microsoft et tout. Toujours un peu à l'extérieur. Et c'est un peu ça le problème, voilà, c'est que... Voilà, ils savent, il y en a qui savent comment parlent les syndicats et qui savent que c'est pas un travail de journalisme et qui se cachent pas derrière. Ah, mais si, c'est pas un travail de journalisme qu'ils font, bah oui, non, effectivement, c'est un travail militant, mais faut savoir aussi traiter le genre de vérités qui sont dénoncées et le genre de trucs de lutte qui passent. Bref. Dans tous ces débats, il y a une personne, une connaissance, qui est vraiment celui qui a ouvert le plus sa gueule, qui a balancé aux gens leurs quatre vérités, de façon claire et basée, et évidemment, une personne queer. Et évidemment, on lui a chié à la gueule, globalement. Et en vrai, je vais être sincère, ça m'a un peu remué. Moi, c'est simple, tu vois, genre, je suis un peu en recul, j'ai ma chaîne YouTube, je dépends plus trop des gens. Ça me fait un peu chier de me dire que j'aurais pas cette reconnaissance-là, que c'est sûrement des gens qui me donneront pas trop l'heure. Et après, ça m'a fait beaucoup de mal ce mois-ci, et j'ai dû un peu deal avec ça. Mais en vrai, là, ça me remue encore plus, parce que, il me rappelle directement une autre personne queer, qui, il y a quelques années, était exactement le même profil, était tout autant vocale, tout autant pied dans le plat, tout autant carré, et aujourd'hui, il parle plus, il est dans son coin, il se bat un peu pour survivre, parce que, il est juste crevé. Et c'est comme ça que la diversité qu'on essaye tant de garder, etc., on fait tant d'efforts, etc., elle disparaît. En vrai, c'est toujours, toujours, toujours plus coûteux d'ouvrir sa gueule dans ces milieux-là. Et là, ça a été coûteux, et ça a été coûteux pour beaucoup de gens. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui essayent de faire bouger les choses au sein de la presse. Je sais qu'elles doivent sans cesse négocier dans leur prise de position, entre d'un côté essayer de faire bouger des trucs, entre de l'autre côté... Le coût d'ouvrir sa gueule globalement. Ça me fait chier. Et j'ai aussi peur de parler comme je le fais aussi, pas pour moi, mais parce que j'ai peur de les mettre dans des situations compliquées. Et voilà, je sais qu'on peut faire des trucs plus intéressants avec la presse, et j'avais pas donné le titre de la chronique qui est « Est-ce que la presse jeux vidéo doit mourir ?» Et en vrai, je veux pas la mort de la presse P, mais je veux juste qu'on laisse un peu plus de place à ces gens, qu'on réfléchisse un petit peu de seconde à des trucs, qu'on arrête de dire qu'on n'est pas l'antenne des syndicats dès qu'on essaie de discuter un petit peu. Et je veux juste qu'on travaille à remettre le LOP dans Journal.
Let's go ! Oh là là !
Ouais !
La conclusion de 20.
La conclusion parfaite. Hein. Let's go ! Non mais que la presse spécialisée soit meilleure, quoi.
Bah oui.
À un moment, moi, enfin, vraiment, quand je serre les dents à chaque fois que j'entends des journalistes spé jeux vidéo faire les gauchistes et alors qu'à côté, ça va interviewer les patrons et servir la soupe. Je le dis comme ça parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens, quoi. C'est servir la soupe aux patrons.
Après, c'est vrai que, enfin, voilà, genre,
il y a grave ce truc de. Non, on se rend pas compte à quel point genre la façon de raconter des patrons a pu genre vraiment façonner la façon dont on voit le jeu.
Et là, typiquement, tu vois, exemple récent,
tu vois.
Ouais, pareil. Exemple récent, c'est pas contre lui, Pessigant, tu vois, je m'en fous, mais tu vois, genre, on avait React au Triple V initiative chez Gotos. Et Gotos, il entre très rapidement en empathie avec les patrons Triple V qui ont besoin d'un espace pour eux pour parler de leur jeu. Par contre, il se pose la question de « Ah mais du coup, comment ils réagissent les petits ?» Et en fait, tu vois qu'il n'a pas la grille de lecture pour comprendre comment des petits réagiraient. Alors du coup, après, il a réagi à mon clip sur Twitter, etc. en voyant « Ah bah oui, c'est comme ça qu'ils réagissent. » Mais tu comprends que de base, dans le logiciel de base des journalistes qui sont présents médiatiquement, etc., ils n'ont pas la grille pour comprendre ça. Parce que de base, ben, leur cercle, les gens avec qui ils travaillent, etc., c'est des patrons.
Après, je pense qu'il y a... je suis d'accord avec ça. Comment dire ça ? Je pense qu'il y a une raison à ça aussi, c'est que bah, la presse P jeux vidéo, c'est beaucoup construit sur de la curation. Et du coup, c'est un peu un entre-deux chelou où bah, justement, ils voient que ce qui leur plaît, et du coup, c'est très influencé par ce qui plaît à des mecs de 35-40 ans, ce qu'ils veulent voir comme jeu vidéo. Et
je parle aux journalistes.
Ouais, c'est ça. Coucou à tous les petits viewers.
Moi, je...
Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, voilà, c'est très influencé, mais il y a ce côté, tu vois, il y a cette auto-justification de nous, on va les chercher parce qu'on a envie de voir des jeux cool. Mais à un moment, il faut voir que ça peut pas être... Tu peux faire de la curation, c'est une partie de ton taf, mais c'est un truc qui envahit un petit peu ta vision complètement du jeu vidéo. Et tu peux vivre comme ça, tu vois, mais évidemment que les syndicats vont te dire que tu casses les couilles et qu'on n'est pas d'accord sur certaines façons de traiter l'info, parce que c'est le cas.
Mais moi, je voudrais revenir sur un truc, c'est genre... On citait justement Origami et tout, et c'est vrai que, à ma connaissance, Origami, ils n'ont pas fait directement venir beaucoup de patrons, etc. Mais le truc, c'est que à côté de ça, tu ressens quand même dans leur discours et tout, et comme vient de le dire Lenofi, tu ressens quand même que leur avis, il est situé quelque part, et que ce quelque part, c'est quand même plus proche des petits patrons indés que des employés, quoi. Même si, évidemment, ils vont parler après de... Il y a eu des licenciements, il y a eu du harcèlement et tout. Ils le font, tu vois, c'est pas pour cracher sur 100% de ce qui... de leur travail. Mais le fait est que, bon, l'un dans l'autre, on entend quand même énormément parler du point de vue des... Voilà, des petits patrons, entre guillemets, quoi. Parce que, bon...
Yep. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la dernière chronique ?